Bonjour. Aujourd'hui, on explore ensemble une série d'articles d'Africa Press du 15 mai 2025. Il nous offre un aperçu assez saisissant de dynamiques clés sur le continent.
Absolument. On va toucher à des stratégies énergétiques assez contrastées au Ghana, puis la vague numérique à Maurice.
Oui.
Les enjeux de justice en Mauritanie et puis cet accord minier aussi Rwanda-États-Unis. Assez révélateur.
C'est ça. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'essentiel, de comprendre ce qui se joue derrière les titres. Alors, entrons dans le vif du sujet, le Ghana.
Oui.
Le président Mahama, cette déclaration forte à l'Africa CEO Forum, pomper du pétrole comme s'il n'y avait pas de lendemain, bon, ça a le mérite d'être clair.
Ah oui, c'est une approche, disons, dictée par une certaine urgence économique. Il faut dire que leur production nationale a fléchi.
D'accord.
Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la tension. D'un côté, maximiser les revenus fossiles maintenant, vite.
Oui.
Et de l'autre, affirmer le droit au développement, tout en visant quand même à faire passer les renouvelables de moins de 3% à 10%.
10%, ouais. C'est ambitieux malgré tout, non? Par rapport à 3%, même si ça peut paraître modeste globalement.
C'est un défi énorme en termes d'infrastructures, de financement, surtout quand les gros investissements actuels vont encore aux fossiles. Et tout ça, bien sûr, face aux recommandations climatiques de la UIE.
Et j'imagine que ce dilemme, ce n'est pas propre au Ghana. Les autres producteurs africains doivent faire face un peu au même vent contraire.
Tout à fait. Le contexte global n'aide vraiment pas. Vous avez près de 150 projets pétroliers et gaziers ouverts aux investisseurs sur le continent.
Quand même.
Mais voilà, la chute des prix du brut, une certaine frilosité des investisseurs qui regardent le long terme, ça rend l'attraction des capitaux plus difficile.
D'accord.
Prenez l'exemple du GNL, le gaz naturel liquéfié, au Nigeria. La demande mondiale est forte, on le sait,
oui.
Mais trouver les financements nécessaires pour lancer ou étendre les projets, ça reste un vrai parcours d'obstacles.
Je vois. Bon, du défi des ressources naturelles, passons peut-être à un autre type de ressources, l'humaine, la technologique. À Maurice, l'intelligence artificielle là-bas, ça avance fort dans le privé, non?
Ah oui, c'est assez spectaculaire. L'exemple que vous citiez, Jubilee Alliance.
Oui, 5 jours à quelques secondes pour une saisie de données.
Ah.
C'est bluffant. Ça change vraiment la donne au quotidien, j'imagine.
C'est une illustration parfaite du potentiel de gain d'efficacité, c'est sûr. Par contre, on observe un décalage.
Ah oui, oui.
L'administration publique, elle, est un peu plus à la traîne. Bon, il y a des efforts pour moderniser, digitaliser les services comme la sécu, la santé.
D'accord.
Mais le gouvernement est très conscient des secousses à venir sur le marché du travail. La ministre Jetune a même parlé de 90% des emplois actuels qui pourraient être menacés par l'automatisation.
90%. C'est énorme.
Oui, et ça explique pourquoi ils ont lancé une stratégie nationale IA dès 2018. L'idée, c'est d'intégrer la formation, la robotique, pour essayer d'anticiper, de préparer cette transition.
D'accord. Alors, pendant que Maurice regarde vers cet avenir technologique, la Mauritanie, elle, semble plutôt se confronter à son passé récent. Il y a eu une décision de justice marquante.
Effectivement. C'est la confirmation en appel de la condamnation de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. Et la peine est lourde.
C'est-à-dire ?
15 ans de prison ferme. Pour enrichissement illicite, trafic d'influence, blanchiment. En plus, confiscation des biens, déchéance des droits civiques. C'est pas rare.
Oui.
C'est une décision significative parce que, soyons honnêtes, les condamnations d'anciens chefs d'État pour corruption, ça reste rare en Afrique. Donc ça envoie un signal contre l'impunité au sommet.
Mais j'imagine que la défense ne voit pas les choses comme ça.
Ah non, pas du tout. Elle conteste la base légale du jugement. Elle parle notamment d'une application rétroactive de certaines lois sur le blanchiment, par exemple.
D'accord.
Et puis elle dénonce un règlement de compte politique, classique si on veut, mais ça montre bien toute la complexité de ses affaires post-mandat.
Bien sûr. Allez, on termine ce tour d'horizon au Rwanda. Un accord sur l'étain qui semble attirer l'attention.
Oui, c'est une lettre d'intention qui a été signée entre un groupe minier rwandais, Trinity Metals, ils exploitent la grande mine d'étain de Rutongo.
Oui.
Et un affineur américain, Nathan Trotter. L'objectif affiché, c'est de créer une chaîne d'approvisionnement direct d'étain vers les États-Unis. C'est un minerai critique, l'étain.
Et les États-Unis y voient un intérêt stratégique, j'imagine, au-delà du commerce pur.
Clairement. Le département d'État américain le dit ouvertement. Ils soutiennent ce genre d'initiative. Pour eux, c'est lié à la relocalisation industrielle, à la sécurité nationale. Et ça s'inscrit aussi dans une diplomatie américaine plus large dans la région des Grands Lacs. Ils essayent de de stabiliser la zone, notamment via des discussions entre le Rwanda et la RDC. Une zone cruciale pour les fameux minerais 3T.
Les 3T, étain, tungstène, tantale.
Exactement.
Mais ce type d'accord bilatéral très ciblé sur la sécurité d'approvisionnement pour un pays comme les États-Unis, ça soulève forcément d'autres questions, non ? Sur d'autres aspects.
Précisément. Au-delà de la géopolitique, il y a des interrogations qui demeurent. La durabilité, par exemple.
Oui.
Environnementale, sociale.
Oui.
La transparence des accords eux-mêmes. L'impact réel des tensions régionales qui sont toujours là, sur ces flux. Et puis, la question fondamentale, quelle part des bénéfices revient vraiment aux populations locales ?
C'est la question clé, souvent. En somme, si on essaye de rassembler tout ça, ces différents articles nous montrent une Afrique vraiment plurielle. Avec des choix parfois cornéliens,
oui.
Gérer les ressources traditionnelles face à l'urgence climatique, économique, maîtriser cette vague numérique pour qu'elle bénéficie à tous, assurer la justice, la bonne gouvernance, et puis naviguer ces nouvelles dynamiques géopolitiques autour des ressources. C'est complexe.
Ce sont des défis très interconnectés, oui. Chaque décision dans un domaine a des répercussions ailleurs.
Tout à fait. Et peut-être pour laisser matière à réflexion, face à cette toile de fond, dépendance aux matières premières, accélération technologique, exigence de justice, pression géopolitique, comment est-ce que les nations africaines peuvent forger leur propre voie ? Une voie qui articule souveraineté économique, bien sûr, mais aussi impératif écologique et équité sociale pour vraiment écrire leur propre avenir. Vaste question, merci de nous avoir accompagnés pour cette analyse.